ça marche. On a eu les moyens d'acheter une ampoule. Extraordinaire. Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, bien entendu, suivant la tradition. Vous savez que maintenant, l'homme n'embrasse plus la femme. C'est-à-dire que quand on dit bonsoir à toutes, on est obligé à tous, on est obligé de dire à toutes, et que les Anglais ne peuvent pas lire le catéchisme parce qu'ils ne sont pas encore arrivés à se mettre d'accord sur la traduction du célèbre homme. L'homme. Comment dit-on l'homme en anglais ?
La chose humaine.
The human being. Vous avez reconnu, chers auditeurs, la voix de Mathieu Huguenet ou de Marc Aymer, c'est comme vous voulez.
Ce soir, c'est
plutôt Marc Aymer. La semaine dernière,
Mathieu Huguenet, très bien.
Mais très bien, Mathieu.
C'est un vieil ami. Mais si vous voulez, Marc Huguenet et Mathieu Aymer.
Qui a fait un tabac. Oui, c'est vrai, il a fait un tabac la semaine dernière. D'ailleurs, c'est pas pour ça que je lui ai demandé de revenir, puisqu'il était déjà convenu la semaine dernière qu'il reviendrait avant même de savoir.
Je vous signale, j'en ai la démonstration, en tout cas par les lettres que j'ai reçues et les coups de téléphone que j'ai reçus à la suite de mon intervention, qui n'était pas brillante, mais qui tombait à point.
C'était remarquable, mon cher.
Pas du tout. Mais j'ai reçu plus de 260 lettres.
Est-ce que vous êtes obligé de répondre à
tous? Je réponds à tous, mais je réponds à tous à certains
et à
problèmes,
toutes.
À toutes.
Enfin, voilà.
D'une manière générique. Mais surtout qu'il y a beaucoup de monsieur et madame. Ce qui est tout à fait.
Ben,
ça double
dans notre milieu, on est plutôt du genre à être marié.
Exactement.
C'est comme ça que ça se fait chez nous. C'est bien que c'est pas très branché. Vous avez remarqué qu'en ce moment, je sais pas pourquoi ça me frappe depuis quelques semaines, à la télévision ou à la radio, on parle beaucoup des gens. L'autre jour, il y avait une émission, des couples. Et l'autre jour, il y avait une émission de, je sais plus qui, enfin peu
importe.
C'est
pas très important.
Enfin, pas beaucoup d'importance, qui recevait des jeunes filles, des jeunes femmes qui étaient pas vilaines, tout pas très belles non plus, enfin des jeunes femmes quoi.
Normal.
Mais des jeunes femmes du monde, célèbres, connues, enfin connues, honorablement connues de leur
société civile.
Et alors on les présentait, on disait, c'est mademoiselle Tartampion, c'est la compagne.
Mais
non, c'était pas des deux, il y avait pas de Tartampion.
Non,
c'est la compagne de monsieur Duchemol. Alors il y avait la compagne de.
C'est pas la fiancée
Non, les compagnes maintenant. Dans le temps, on disait c'est la femme de monsieur Lintel.
C'est son compagnon.
Voilà, la compagne.
On disait camarade dans le parti.
Tandis que notre ami.
Ses camarades, c'était formidable, il n'y a pas de féminin.
Mais il n'y a pas de féminin. Notre ami Martin Pelletier, il a une femme qu'il est marié avec et qui lui donne des enfants.
Oui.
Avec d'ailleurs une persistance qui devient inquiétante.
Une longanimité,
Une longanimité. Bonsoir Martin.
Bonsoir.
Alors Martin Pelletier est le directeur de la rédaction de. Comment ça s'appelle ?
National Hebdo.
On n'a pas le droit de faire ça. Voilà, ça c'est exactement. Ouais, après, on a des articles dans les journaux qui disent que.
C'est pas bien.
On est vulgaire, qu'on est. Enfin,
c'est
etc.
Pas bien.
Bon.
C'est pas bien du tout, j'en ai conscience.
C'est très, très
pardon.
Vous avez une conscience ?
Oui. Ça.
Il n'en a qu'une. Et elle est professionnelle, comme disait. C'est Jean-François Devet qui disait cette phrase extraordinaire. Je n'ai qu'une conscience et elle est professionnelle. Et il disait également il faut être dans la mauvaise foi comme un aigle dans le ciel.
Oui, c'est ce que disait Marc. C'est tout mon sujet des petits poissons. Voilà.
Alors, avec Marc Aymer, nous allons parler. Avec Mathieu Huguenet, on ne va jamais y arriver. De toute façon, ce n'est pas la peine d'essayer.
Dans certains pays d'Amérique latine, je suis connu comme Marcos Aymer.
Bon, alors, comme Marcos Aymer, on va parler d'un sujet qui est à la fois triste, pittoresque, ravissant, paradoxal et surprenant. Ce sont les apatistes.
Les aventures posthumes d'Emiliano Zapata.
D'Emiliano Zapata. Et d'ailleurs, vous savez que j'ai inauguré en 94 une tradition. Donc c'est pas encore tout à fait une tradition puisque c'est la deuxième fois. Je vais vous lire la presse de 1914. Et là j'ai le numéro de l'Action française. On ne saurait mieux faire. J'espère que je vais pas être traîné en justice pour avoir lu l'Action française. Et ça va. Pas, mais devant la Rota, le tribunal de la Sainte-Rote, du jeudi 18 janvier 1914. Eh bien, à la date du 18 janvier 1914. Ah oui, c'était toujours.
C'est racisme déjà dans l'Action française, la grande semaine de blanc. Il n'y avait pas une semaine du. En plus, il y a du métis, je crois,
probablement du métis. Hein. Et alors, en page 2, déjà du 18 janvier 1914, il y avait un article intitulé La Révolution mexicaine.
Plein cœur de la révolution mexicaine.
Nous recevons la dépêche suivante, nous disait l'Action française, confirmant l'information que nous avons donnée hier, annonçant que le gouvernement mexicain cesse ou suspend ses paiements. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà à l'époque, l'effet le plus fort de la révolution, c'était qu'on payait plus ses dettes. Et c'était une dépêche datée de New York, du 14 janvier. Une dépêche de Mexico dit que la suspension du paiement des intérêts de la dette nationale a été conseillée au général Huerta par un représentant des banquiers européens.
El hijo de su madre.
Le décret que le général a pris à ce sujet spécifie une suspension de 6 mois, mais les banquiers locaux s'attendraient à ce que le délai soit étendu. Et dessous, il y avait, alors je vous le signale, je ne sais pas si ça existe toujours,
si.
Mais amis de l'Action française, commandez vos bois et charbons chez Brossels, 253 rue de Vaugirard, téléphone Saxe 1199, pavé de bois, 90 centimes le sac. Moi, je trouve qu'une époque où on pouvait acheter des pavés de bois à 90 centimes le sac est une époque qui mériterait de revenir.
Ils ont téléphoné à un numéro de téléphone qui était Saxe, et non pas le 614 28 25.
Alors, ça, c'était l'Action française du 18 janvier 1918, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, je voulais vous dire qu'avec Marc Kemmer, Mathieu Huguenet, nous allons parler des apatistes, ça, dans la deuxième moitié de cette première moitié.
Des sympathiques apatistes.
Nous allons parler de l'actualité avec Martin Pelletier, directeur de la rédaction de National Hebdo. Et en deuxième partie d'émission, là, je dois dire que j'ai une formidable surprise. Je ne sais pas si c'est une surprise, d'ailleurs, parce que c'était prévu depuis fort longtemps, mais je ne l'avais pas annoncé. En tout cas, je crois que ça sera un événement. Nous allons recevoir Madame Fretel. Madame Fretel, c'est une dame qui, il y a 45 ans, à Lourdes, est arrivée à Lourdes morte. Elle est arrivée pratiquement morte, puisque... Elle était atteinte de tuberculose généralisée au dernier degré. Elle était dans le coma depuis plusieurs mois. Son état était tellement dramatique qu'on avait chargé dans le train, dans le fourgon du train, en même temps qu'elle, dans le wagon, plutôt dans la voiture. On avait chargé un cercueil, parce qu'on pensait qu'elle allait mourir à Lourdes et qu'il faudrait la ramener dans un cercueil. Et je ne ferai pas durer plus longtemps de suspense. Comme vous l'imaginez, elle n'est pas morte en 48 à Lourdes, pour l'excellente raison qu'elle est là ce soir. Et qu'elle va nous raconter comment elle a été miraculée à Lourdes. C'est une des 63, 68, 65 miraculées de Lourdes.
Oui. Il y en a eu très peu de reconnus.
Reconnus par la médecine, qu'elle ne comprenait pas.
Alors qu'il y en a eu énormément, oui.
Mais ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Pour la première partie, nous allons parler de l'actualité. Alors,
De la manif du dimanche 16 pour l'école publique.
On pourrait parler de cette manifestation. Je ne sais pas, Martin, tu y étais pas, toi.
Non, je n'étais pas à la manifestation, mais je veux dire qu'elle était intéressante.
Même je voulais pas de casquette.
Avant d'en parler, je voulais quand même féliciter Édouard Balladur.
Oui, c'est bien.
Vas-y, parce que c'est très rare d'avoir une occasion de le faire. Mmh. Et je viens de lire Le Monde ce soir, et il s'agit de la loi Balleriol. Vous souvenez ce que c'est?
C'est
la loi
tout,
qui a été votée en 1975 et qui fait obligation dans les publicités, notamment sur les affiches, à s'exprimer en français.
C'est vrai qu'elle est... Alors, qui fait donc obligation de s'exprimer
en français. Mais...
Bon, Serge, je m'arrête tout de suite, si c'est comme ça. Bien, donc, vous savez que cette loi est tournée tous les jours. On met une grosse affiche en anglais, puis un petit astérisque, et puis la traduction française,
des annonces de Walt Disney.
Par exemple. Donc, il y a une nouvelle loi qui va être présentée par Jacques Toubon. Cette loi, d'ailleurs, assez mauvaise, je crois. Mais enfin, elle va dans le bon sens. Hein. Et plusieurs ministres au Conseil des ministres avaient proposé de ne pas la faire passer parce que le vent de l'histoire est tel qu'il ne faut pas s'opposer à la victoire naturelle des autres langues sur le français. Et Balladur a tranché dans l'autre sens en disant que c'était précisément à l'État de défendre sa langue. C'est-à-dire que là, il faut le féliciter.
C'est dommage que je n'ai pas préparé un peu de musique. On aurait offert un hymne,
musique turque, la marche turque.
Oh, allons bon, comment. Cela dit, oui, c'est la seule raison de féliciter Balladur, parce que si on parle de la loi Fallioulou, c'est vraiment un remarquable ratage sur tous les points. Et le plus grave, je crois, c'est le contrôle des médias dans cette manifestation. Parce que si j'ai bien lu Libération, il y avait en tout et pour tout 200 à 260 000 manifestants.
Alors, oui,
titre. Hein, 200 à 260. Or, maintenant, vous entendez tout le monde, c'est 1 million. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aurait eu, d'après le mensonge en cours, autant de monde ce dimanche qu'il y en a eu en 1984 pour la manif de l'école libre. Or, c'est totalement faux. Il y a eu 6 fois moins.
Voilà. Justement, là, c'est tout à fait intéressant parce que on a vu le système se développer, hein, notamment dans les journaux télévisés. Le soir, c'était 1 million. Alors, les gens qui étaient derrière leur petit écran, je veux dire les lecteurs de téléprompteurs, comme dit toujours présent, ce que je trouve exactement la bonne définition du journaliste de télévision, disaient 1 million de personnes. Les gens qui étaient sur le terrain, eux, disaient non, pas du tout, la préfecture de police a annoncé 280 000 personnes. Alors, on a vu M. Carrérou, par exemple, qui est venu et qui a dit, il faut faire une chose. Il y a une technique que tous les journalistes. Il a pris un air tout à fait important, comme il fait toujours. Carrérou, prendre un air important, c'est plutôt rigolo.
Il y avait 1000 kilos personnes.
Alors, il a dit, non, il faut faire comme les journalistes font toujours. Nous, journalistes, nous avons une technique. Alors, nous prenons. Et alors, tout le monde était pendu à celle en disant, mais quelle technique formidable a-t-il bien pu trouver ? Nous prenons les chiffres de la préfecture, nous ajoutons les chiffres des organisateurs et nous divisons par deux. Stupéfait. Moi, j'étais ailleurs. Donc. La préfecture annonçait 280 000, les organisateurs annonçaient 1 million. 1 million 280 000 divisé par 2, ça fait, disons, pour simplifier, 600 000, 640 000 si on veut. Et alors, il disait, donc, on peut penser, d'ailleurs, c'est assez vraisemblable, qu'il y avait 600 000 personnes, c'est-à-dire exactement le même nombre, disait-il, qu'à la manifestation de juin 84. Or...
Si c'est compté de la même manière, peut-être...
Si on compte... Non, pas du tout. Justement.
Justement.
La manifestation de 84, les organisateurs de la manifestation revendiquaient 1 850 000 personnes. Et la préfecture, à l'époque, avait annoncé 84, c'était la pleine époque du socialisme triomphant. Tous les flics, qui n'étaient pas francs-maçons ou qui l'étaient, étaient à plat ventre devant le pouvoir. Et d'ailleurs, pourquoi n'y serait-il pas ? Et donc, les flics dérangeaient plus, encore plus que les autres, et ils disaient 800 000. Alors, si on applique la technique extraordinaire inventée par le futur prix Nobel de journalisme mathématique Carrérou, on fait 1 850 000 plus 800 000, ça fait 2 650 000, divisé par 2, ça fait 1 325 000. Autrement dit, c'est deux fois au minimum, ce que la gauche, la Icard, a fait dimanche. C'est-à-dire que M. Carrérou, après avoir dit des choses d'une banalité terrifiante, dit des choses d'une fausseté accablante. Donc, ce qui est bien avec ces gens de la télé, c'est que vous avez toujours le choix. Ou ils mentent, ou ils disent des conneries. Mais de toute façon, ils mettent toujours...
Ils peuvent cumuler.
Et si on se rapporte maintenant aux chiffres réels, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des contacts. Le comptage de Libération était intéressant parce qu'il y avait... c'était corroboré par le nombre de bus et de trains. Donc, c'est aux environs de 200 000. Or, le chiffre réel de 84, c'était à l'entour de 1 million 2. C'est donc bien un rapport de 1 à 6 et non pas un de 1 à 2.
Mais... Il y a une chose qui m'a paru, alors tu parlais tout à l'heure, Martin, de Libération, il y a une chose qui m'a plus intéressé que tout, c'est le sondage de Libération. Car Libé a fait une chose très intéressante avec Ipsos, je crois. Ils ont fait un sondage dans la manif. Ils ont envoyé des sondeurs qui ont interrogé un certain nombre de manifestants.
Sous anesthésie ou...
Bah non, plutôt sous la pluie. Et donc, ils leur ont posé des questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Etc. On connaît le... Alors, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que... C'est pas étonnant qu'ils aient été moitié moins nombreux qu'en 84, parce que c'est pratiquement la totalité de ce qu'en France on appelle le peuple de gauche qui s'est déplacé pour venir à Paris. Et on le voit d'une... Alors qu'est-ce que c'est que ce peuple de gauche ? Et je m'excuse de me citer, mais j'ai fait un papier d'une extrême acuité analytique dans une revue des cadres qui s'appelle Le Libre Journal de la France
Corporation.
Le numéro 25.
Ça fait 25 décades.
25 décades, 250 jours. Il faut dire que pour un magazine, enfin pour une revue, pour une publication à laquelle les bons esprits prêtaient une survie vraisemblable de 3 jours, c'est quand même pas mal, hein, 25 décades.
Et en plus, ça aurait été ennuyeux, 3 jours, c'est pour un décadaire. Vous auriez
pour un décadaire,
c'est
embêtant. Alors, j'ai donc fait un papier, parce que ça me paraît très intéressant. Quand on reprend les chiffres de Libération, on découvre d'abord que, sauf erreur de ma part, je crois pas me tromper, 69% des manifestants... 60% étaient des hommes, pour commencer, et 40% étaient des femmes. Déjà, c'est pratiquement la proportion normale de ce pays inversée. Ça peut pas être très étonnant, mais c'est comme ça. Voilà. C'est-à-dire que c'est le contraire. Ensuite, 69% étaient des socialistes. Ce qui prouve quand même que c'est pas très représentatif du peuple de France, parce que, jusqu'à plus ample informé, enfin en tout cas les dernières élections n'ont pas tendu à démontrer qu'il y avait 69% de socialistes dans ce pays. Chose curieuse, il y avait 69% de fonctionnaires et de fonctionnaires de l'enseignement. Et de fonctionnaires de l'enseignement d'un âge de 35 à 45 francs. Merci Martin. De 35 à 45 ans. Il y avait, dans ce peuple de gauche qui défilait pour la République.
Ils avaient tous la barbe mouillée, vu la pluie.
En plus, j'espère qu'ils ont attrapé des rhumes, des grippes, des rhumatismes, des froids aux pieds, tout ça, j'espère vraiment, parce qu'ils méritent. Mais il y avait.
Vous savez 30% d'ouvriers.
Voilà, 3% d'ouvriers.
C'est extraordinaire. 1% d'artisans. Voilà. Et 1% d'agriculteurs.
Alors, un peuple de gauche dans lequel il y a, sur 100 personnes, 3 ouvriers, un paysan et un artisan, et 70 fonctionnaires, ça fait donc
75. Et combien de porteurs de casquettes?
Ah, ben, il y avait 100% de porteurs de casquettes parmi les anciens élus de gauche. C'était rigolo. Brancard qui avait mis sa casquette, qui visiblement il avait fait acheter la veille chez.
Je sais pas pourquoi ça s'appelle toujours Conflans-Sainte-Honorine, ça devrait s'appeler Conflans-Honorine.
Ça dit. Alors, je termine sur cet aspect du peuple de gauche. Quand on demande à ces gens-là, mais quelles sont pour vous les valeurs
de la gauche
vos valeurs. Alors ils répondent, leurs valeurs, qu'est-ce que c'est? Il y en a 67% qui mettent l'écologie au premier rang de leurs valeurs. 64% qui mettent l'Europe au premier rang de leurs valeurs. 79% qui mettent la République au premier rang de leurs valeurs. 52% qui mettent l'État au premier rang de leurs valeurs. Mais seulement 33% qui mettent la nation au premier rang de leurs valeurs. C'est-à-dire que c'est des mecs, vous regardez, c'est le peuple de gauche qui a défilé, c'est un fonctionnaire de 35 à 45 ans, dont un tiers était sans enfant, autrement dit, comme disait Maurras, et qui n'a pas de patrie. Autrement dit, comme disait Maurras, c'est Philippe Varlet qui me rappelait ça tout à l'heure, le peuple de gauche qui a défilé, c'est un mec, c'est un enfant trouvé qui est mort célibataire. Et ils prétendent représenter le pays. Et alors, ce qui est très drôle, il y a un gag extraordinaire dans le sondage de Libération, c'est que Libération a posé des questions à ces gens-là. Il leur a dit, qu'est-ce que vous pensez du financement de l'école privée? Alors, ils ont répondu, il y a une question à laquelle ils répondent, à 42%, que l'État ne doit pas subventionner du tout les écoles privées. Ok, 42% pensent que l'État ne doit pas subventionner du tout les écoles privées. Et 36% considèrent que l'école privée ne doit pas être du tout financée par l'État.
Ce qui est totalement différent quand on regarde bien.
Alors ce qui veut dire que ces mecs, c'est tous des instituts ou des profs, hein, on l'a vu, hein, de gauche et tout. C'est les mecs qui enseignent à nos enfants la logique,
l'arithmétique
et le français. Et quand on leur dit... est-ce que vous voulez que l'école libre soit financée par l'État? Non. Alors il y en a, je répète, 42%. Est-ce que vous voulez que l'État finance l'école libre? Non. Il y en a 36%. Voilà, c'est ces mecs qui apprennent à nos enfants à lire, à écrire et à penser.
C'est la différence entre la voix active et la voix passive.
C'est ces mecs qui prétendent. C'est ces mecs qui revendiquent le monopole de l'enseignement. Et après, on s'étonne des résultats quand on a un gosse qui arrive vers 17 ans. On lui donne le journal, il dit qu'est-ce que c'est ça? Les images bougent pas. C'est pas étonnant du tout. Voilà. Non, cette manif, c'était un grand moment. Un grand moment.
Tu viens de citer longuement une excellente analyse d'un très grand décadère. Moi, je voudrais dire juste un mot d'une interview de Jean-Marie Le Pen dans un. Hebdomadaire qui n'est pas mal.
Un hebdomadaire qui paraît chaque semaine.
Chaque semaine, un hebdo. Qui corrobore ce que tu viens de dire, c'est il parle tout simplement de l'armée de métiers de la gauche. Je trouve que c'est
la formule est magnifique.
C'est l'armée de métiers de la gauche.
Je dois donner un message personnel et général.
Ils ont un uniforme, d'ailleurs.
Je dois donner un message personnel et général à nos auditeurs. Je suis obligé de leur demander de faire preuve d'une très grande patience et d'une très grande indulgence à notre endroit, parce que ce soir, 3 de nos téléphonistes bénévoles ont été foudroyés en plein ciel de gloire par un virus qui n'a pas donné son nom. Je peux vous dire que c'est pas un virus avec des épines partout. Ça ressemble pas à une châtaigne, j'espère. En tout cas, elles sont malades toutes les trois. D'ailleurs, j'en profite pour les embrasser. Il s'agit de Victoria, de Micheline
et Pierrine.
Et de Pierrine. Pierrine, hein,
Pierrine.
C'est pas celle qui était servante, c'est Pierrine, qui présente une émission le samedi soir. Donc elles sont toutes les 3 malades. Et donc, notre téléphone carillonne en vain dans le vide intergalactique. Enfin, il y a quand même des téléphonistes pour répondre, mais moins nombreuses que d'habitude. Et donc, vous risquez d'avoir à attendre longtemps. Voilà. Alors, un auditeur dit il faut être correct. Ça, c'est vrai.
Avec un cas.
Les médias n'ont pas comparé la manif de dimanche à celle de juin 1984, mais à celle de Versailles.
Si, les deux comparaisons.
Oui, les deux ont été avancées. N'ergotons pas sur le nombre des manifestants. C'était important vu le délai de préparation et la saison. Ce pouvoir de mobilisation de la gauche est inquiétant. C'est une armée de métier. Voilà quelqu'un qui a lu Le Pen, en tout cas. Mais moi, je trouve pas ça du tout inquiétant. Mais vraiment, je dois le dire. D'abord, je suis pas d'un naturel inquiet, puisque Dieu est avec nous et qu'on les aura. Et en plus, je dois dire que quand j'ai vu... D'abord, il faut dire que dans ce défilé, il y en avait au moins la moitié qui ne savaient pas du tout pourquoi ils étaient là. Simplement, ils savaient qu'ils avaient froid aux pieds. Là, c'est clair. Extraordinaire chiffre aussi révélé par Libération. Il y avait plus de participants au défilé dont les fils étaient dans des écoles libres que de participants ouvriers. Il y avait plus de 3% dont les enfants étaient dans les écoles libres. Alors, vous voyez, 6%, c'est ça. Vous voyez le niveau intellectuel de la masse, quoi. Le gars, il a ses gosses qui sont dans une école libre. C'est parce qu'il le veut, ou alors c'est un abruti. Bon. Eh ben, il va défiler avec les ennemis de l'école libre. Hein? C'est le boucher qui fait un défilé de végétariens.
Non, et puis,
c'est extraordinaire.
Et puis, il y a tout cet autre problème. Bon, il n'y avait pas d'ouvrier, tout bêtement, parce que l'ouvrier, le dimanche
après le turbin.
Après le turbin, et que le travailler comme métallo dans un truc, c'est pas très gratifiant. Mais c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus dur que d'être un stit.
Non, mais en ce moment, je vous signale que travailler, c'est déjà un avantage extraordinaire.
Ah, exactement.
Une auditrice, ne pensez-vous pas que le gouvernement va faire encore une série de pattes claires à propos de deux points ? La lettre adressée à François Mitterrand par une centaine de médecins et scientifiques au sujet de la libération de Garetta et d'Alain, et l'éventuel retour de Gorgi impliqué dans les attentats de 85 et 86. C'est-à-dire que en ce qui concerne Gorgi, étant donné qu'on a rendu deux terroristes iraniens aux ayatollahs, maintenant il y a un terroriste iranien qui demande à revenir, moi je trouve qu'on pourrait peut-être installer ce que les Américains appellent un shuttle, une navette. Hein? Donc, entre Paris. Mais ça serait pas idiot d'ailleurs, parce que ça permettrait de les contrôler. On ferait une ligne qu'on appellerait Terror Air. Et entre Paris et Téhéran, les gars viendraient pour poser des bombes. Une fois qu'ils auraient posé les bombes, ils rentreraient chez eux.
Tranquillement.
À condition qu'ils ne posent pas de bombes en France.
Ça
uniquement
bon
en Suisse,
turnover.
En Belgique. Et ça ferait un bon turnover, voilà.
Quant à la France, qui est dans un bon air non, chance, comme disent les Anglais.
Je crois que cette histoire de Gorgi est une histoire, encore une fois, complètement bidon. C'est-à-dire que Gorgi, il a demandé à revenir en France, parce qu'il trouve mieux en France qu'en Iran, et très franchement, on peut pas lui en vouloir de penser ça. Moi aussi, je crois que je m'en ai mieux en France qu'en Iran. Il voudrait bien revenir. Alors, ça a dû tomber, il a dû faire une demande, un vague truc à son avocat et tout, puis l'avocat s'en est servi pour un coup médiatique, mais évidemment, il veut pas revenir, ils sont pas fous à ce point-là quand même. Ou alors, c'était désespéré. Bon. Si, quoique c'est possible. Quant à la lettre adressée par une centaine de médecins scientifiques au sujet de la libération de Garetta et d'Alain, je veux dire que j'ai entendu ça ce matin, effectivement, et c'est absolument renversant. C'est-à-dire qu'on a l'impression
l'esprit de caste,
que c'est l'esprit de caste et de corporation l'emporte sur tout, sur les choses. Parce que, après tout, qu'un médecin soit pour la libération de Garetta et dise c'est un lampiste, on lui fait porter un chapeau, c'est dégueulasse. Bon, on peut l'admettre, on peut le comprendre. Mais que ces gens-là soient indifférents disons les choses clairement, à la soif de vengeance des victimes des Garetta et compagnie, au point d'oser faire une lettre publique, une lettre ouverte au président de la République pour demander la libération de ces types qui ont été condamnés, ça montre un mépris du Pékin qui est quelque chose d'effroyable. C'est vraiment épouvantable ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. C'est tout à fait renversant.
C'est les porteurs de papillons, parce que c'est à partir du grade de professeur.
Professeur, on porte le papillon,
c'est obligatoire.
Et un mépris de la justice également.
Oui, alors en plus, ce que la justice a décidé, après des années d'enquête, des mois et des mois et des mois de procédures, on arrive à une condamnation. On ne peut pas dire quand même qu'ils ont été broyés par la justice. Il y a 2 ans de prison, bon, avec sursis.
Et moi, en tant que sapatiste, je demande la coupe publique des moustaches de Garetta, car je trouve totalement inacceptable qu'un personnage aussi méprisable porte des moustaches du guerrier au Mexique.
il n'est pas forcément méprisable. D'abord, il est en prison. Il est en train de payer pour les erreurs qu'il a commises.
On ne met pas les moustaches.
Donc, laissons-le payer jusqu'au bout. On ne va pas interrompre le paiement de la dette avant l'extinction.
C'est vrai, à l'armée, on ne met pas les soldats qui ont la Légion d'honneur, on les met en au news, mais on met leur Légion d'honneur à l'extérieur. Pour les moustaches de Zapata, ça ne se met pas en prison.
Et d'autres sujets vous intéressent?
Oui, je pensais que vous parliez aussi du 3000e numéro de présent. Ça, c'est une chose importante.
Oui, je voulais... Ben, effectivement, je crois qu'il faut saluer présent, parce que ils fêtent leur 3000e numéro. Or, 3000 numéros pour un journal qui sort 5 fois par semaine, un quotidien qui paraît 5 fois par semaine, ça représente 12 ans d'existence, hein, à peu près. Ça fait 12 ans, en gros, que présent a été créé par Jean Madiran, Pierre Durand, Bernard Anthony et François Brignot. Bon, depuis, François Brignot s'est retiré pour s'occuper de ses propres éditions, de ses propres œuvres. Bernard Anthony s'est consacré plus directement à un combat politique sur le terrain. Et le journal est toujours dirigé par Jean Madiran pour la rédaction et par Pierre Durand pour le fonctionnement, je dirais, administratif, enfin en général, je crois. Et c'est un exploit extraordinaire parce que c'est un quotidien qui n'a pas d'existence médiatique. C'est-à-dire que on voit des choses tout à fait étonnantes. Je me souviens quand La Truffe était parue, ils avaient annoncé, toute la presse unanime avait annoncé pour la première fois un quotidien paraît sur 8 pages sans publicité. Ça faisait jamais que 10 ans que présent paraissait sur 8 pages sans publicité. Pour la première fois, a-t-on annoncé récemment, à propos de Info Matin, un quotidien a décidé de ne pas paraître le samedi. Bon, ben, ça fait des années que présent ne publie pas de. Ne paraît pas. Ne fait pas son numéro du samedi. Il paraît le samedi, puisque c'est le numéro du vendredi qui est en vente le samedi matin. Donc, toutes les nouveautés de la presse quotidienne qui sont liées aux conditions économiques de la presse quotidienne, présent les a inventés il y a 12 ans, jamais personne n'en parle. Jamais personne n'en parle, mais tout le monde fait comme si ce journal
n'existait pas. Ça doit être imprimé aux yeux des gens de gauche à l'encre antipathique. Oui. Ce qui fait qu'ils ne la voient pas et qu'ils ne peuvent pas la lire.
Non, c'est une réussite d'autant plus extraordinaire que personne ne misait un copec au départ dessus. Qu'il
n'y avait ça, pas... c'est le principe de base.
Qu'il n'y avait pas, comme dans d'autres opérations de presse, à la fois... On a d'abord des fonds, il n'y avait pas de fonds, et puis il n'y avait pas non plus, vous dites pas d'appui médiatique, mais pas non plus d'appui publicitaire, il n'y avait strictement rien. Et ça, c'est uniquement dû au talent des gens qui l'ont fait. Quoi.
Et ça fait 12 ans que ça dure, et bon, alors c'est pas évidemment, Philippe, c'est pas le seul journal qui soit paru sans appui médiatique, sans appui politique, sans appui financier, sans aucun autre appui d'ailleurs.
Mais avec quelques
C'est le seul quotidien. Mais je connais un décadaire qui a
fait. Un décadaire vachement bien, hein. On n'ira pas son nom.
Donc, il y a une autre chose.
Attention.
Oui, mais surtout pas. Il y a une autre chose qu'il faut dire de présent, c'est que, enfin, moi, je le prends comme ça, c'est l'antidote parfait. C'est-à-dire que tous les matins, quand on a eu la tête farcie de, je le lis le matin, moi, je sais bien qu'il y en a qui le lisent le soir, mais moi, c'est plutôt le matin. Quand on a eu la tête farcie du Monde, de Libération, tout ça, qu'on est obligé de lire, nous, professionnellement, on est obligé pour savoir ce que pense l'adversaire. Après, on se fait un petit digestif, en quelque sorte, et ça fait passer tout ça. C'est le desktop de l'esprit présent, ça dégage, et ça fait passer toutes les cochonneries. C'est l'antidote parfait à la désinformation, parce qu'il y a toujours l'œil, il y a les coups de gueule de Sanders, qui est d'une mauvaise foi. Tiens, alors voilà un qui est dans la mauvaise foi comme l'aigle dans le ciel, on peut dire. Il y a les papiers de Wagner qui sont superbes, les papiers de Daoudal le samedi,
il y a tout,
il y a Caroline Parmentier, Jeanne Smith, enfin, faudrait tous les citer, mais
il y a quand même l'éditorial de Madiran aussi
qui est pas mal non plus, il faut bien dire. Voilà, donc si vous ne lisez pas présent, vous avez tort, quoi. Voilà, je vais essayer de pas dire de choses trop désagréables, parce que voilà,
vous pourrez formuler une chose autrement, lisez donc présent.
Alors je disais que Rocard avait acheté sa casquette au soldat laboureur. Non, il l'a acheté à la maison irlandaise du boulevard Raspail.
Ah, la maison irlandaise.
J'ai l'impression que l'ouvrier parisien, le samedi soir après le turbin, c'est pas vraiment la maison irlandaise qui va acheter ses casquettes.
En plus, je veux dire, quand on voyage, comme on a de l'entre-gens, comme dirait Rocard, il n'y a qu'un endroit pour acheter des casquettes, c'est chez Locke. à Londres, dans St. James Street. Ça vous coûte pas cher, mais c'est des casquettes qui ont une autre gueule que celle de... et c'est là que s'équipait en casquette, non pas en casquette, mais enfin en bicorne, l'amiral Nelson, entre autres.
Quoi, la maison irlandaise?
Non, pas la maison irlandaise.
Ah non, non, je croyais... je me voyais... C'est Lobb. Je voyais déjà un rocard rapide avec un bicorne.
Pas chez Lobb. Lobb, c'est dégueulasse.
Bon, bon. Et alors, un auditeur nous donne un scoop, mais je vous le donne pour ce qu'il vaut, c'est-à-dire le prix du papier sur lequel il est écrit. Bientôt, nous dit-il, dissolution du Parlement par Mitterrand, dans la foulée, présidentielle, et Mitterrand est réélu pour cette
troisième fois. Ben, c'est ce qu'on dit la dernière fois.
Quelle horreur. Voilà, je regarde un petit peu les commentaires de nos auditeurs. Oui, le matin même sur RTL, un responsable de l'école publique, ça c'est vrai, déclarait que la manifestation était préparée depuis le mois d'octobre 93. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire que ça a été une grosse surprise quand même. Hein.
C'est d'ailleurs qu'on pensait, effectivement, en juin, quand Mitterrand a refusé qu'elle soit inscrite à la session extraordinaire, tout le monde pensait qu'elle serait ressortie plutôt dans le courant de l'automne. Et Balladur a surpris son monde en ne l'inscrivant pas tout de suite. Mais ils avaient dû donc préparer les choses pour octobre.
Cela dit, ils se conduisent vraiment d'une façon... Enfin, ce gouvernement se conduit d'une façon minable, parce que maintenant que l'affaire a foiré, ils ont essayé de faire porter le chapeau à ce malheureux... comment il s'appelle, Monory, je confonds toujours Monory, Meignery,
l'homme du Sénat,
Borges Monory.
Mais il a hurlé cet après-midi.
Oui, en disant que c'était lui qui s'était trompé. Alors, et comme il est, c'est le garagiste, il n'est pas de naturel tendre, il les a envoyés au plot vite fait, ce qui était très bien.
Autre... Je crois que vous vouliez nous parler aussi de la narcoculture, parce que vous en aviez déjà parlé dans le libre journal, mais là vous donnez une autre information.
Eh bien, oui, c'est tout à fait intéressant. Je trouve, je peux le dire, d'autant que je ne suis pas à l'origine de cette affaire, c'est que Jacques Houbard, en décembre, notre ami Jacques Houbard, qui est écrivain, journaliste, et qui avait fait un bouquin pour lequel je l'ai reçu à cette émission, qui s'appelle « Dieu, César et les bourgeois », avait publié dans le Libre Journal, donc en décembre, au début décembre, un article dans lequel il expliquait comment les communistes, comment la subversion marxiste avait installé en Europe et en Amérique ce qu'il appelait la narcoculture. C'est-à-dire comment ils étaient arrivés à la fois à imprégner les esprits de la conviction que la drogue était une bonne chose intellectuellement, et d'autre part, à faire entrer la drogue dans les pays. Alors ça paraissait un petit peu fantasmagorique comme théorie, c'est parce que vous avez, quand vous dites ce genre de choses, vous avez toujours des gens qui haussent les épaules en disant « bah oui, c'est votre vieille théorie du complot, vous nous enquiquinez avec ça, etc. » Bon, et bien cette fois-ci, c'est parfaitement clair, puisque dans un journal que je lis vraiment par devoir, qui s'appelle Globe Hebdo, il y a une interview de Rudolf Barak, plutôt le compte-rendu d'un entretien avec Rudolf Barak. Rudolf Barak, c'est l'ancien chef des services secrets tchèques, des services secrets de Prague. Et Rudolf Barak dit l'ensemble des services spéciaux des pays du pacte de Varsovie a collaboré depuis la fin des années 50 à la production intensive et à la commercialisation mondiale de la drogue, cocaïne surtout, en tant qu'arme anti-impérialiste. Khrouchtchev, initiateur de l'opération, qu'avec un cynisme prodigieux il avait intitulé Drujba Narodov, ce qui veut dire l'amitié du peuple, ce qui est quand même pas mal, avait convoqué à la fin des années 50 une conférence secrète à laquelle participèrent les premiers secrétaires des partis communistes des pays membres du pacte de Varsovie, les premiers ministres de ces pays et les ministres de la défense des mêmes pays. Et à l'époque, ça c'est toujours Rudolf Barak, l'ancien chef des services secrets de Prague, qui a été chargé de l'organisation de la chose. C'est toujours lui qui parle, il dit Khrouchtchev a expliqué que le trafic de drogue était à la fois rémunérateur et stratégiquement utile puisqu'il fragilisait le moral des troupes ennemies, et que sur le plan moral, eh bien, il n'y avait pas de souci à se faire parce que tout ce qui peut accélérer la destruction du capitalisme est forcément moral. Et à la suite de ça, la décision a été prise dans cette réunion de confier une partie des activités à chacun des services spéciaux des pays du pacte de Varsovie, et notamment c'est Castro qui a été chargé de l'organisation des réseaux de distribution de la drogue. Et à la fin des années 60, Castro contrôlait 90% des réseaux latino-américains de distribution de la drogue. Alors, je répète que ça, c'est pas moi qui le dis. Moi, je suis un vieux fasciste, comme chacun sait. Parce qu'il paraît que d'être royaliste catholique, c'est être fasciste, maintenant. Il faut prendre le nouveau vocabulaire comme il vient.
Et en plus, ils ne savent absolument pas ce qu'est le fascisme. Tous les gens...
Oui, visiblement, ils ne savent pas. C'est une doctrine de gauche. Enfin, ils font semblant de ne pas le savoir.
Moi, je parle malheureusement. Enfin, malheureusement. Oui. Heureusement, c'est aucune importance, mais ils le savent absolument pas.
Et donc, c'est pas moi qui le dis, je répète que c'est l'ancien chef des services spéciaux tchécoslovaque, c'est-à-dire qui était un agent communiste de première
magnitude.
De première magnitude. Merci, mon cher Marc. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ces questions d'actualité.
Oui. Il suffira de lire le livre journal numéro 25 qui vient de paraître.
Il est
tout chaud. Et puis, voilà, vous le demanderez au 68 rue David d'Angers. Et puis si vous nous envoyez un timbre ou deux, eh bien vous recevrez, ou un petit peu plus, peut-être même un demi-carnet ou un petit carnet de timbre, vous recevrez un spécimen, et voilà, en nous le demandant, donc 68 rue David d'Angers.
Moi j'ai lu une petite information ces jours-ci dans la presse espagnole que j'ai trouvée totalement délicieuse. Il y a un auguste vieillard de 104 ans qui a été se présenter près de Grenade dans une caserne de la garde civile pour se présenter pour faire son service militaire, pour se rendre et faire son service militaire, car il était insoumis depuis l'âge de 20 ans, il était sous Alphonse XIII, et ça lui ruinait la santé, je veux dire,
ça lui brisait le moral,
et il est venu pour enfin retrouver un état civil et accomplir son service militaire.
Et alors ils l'ont pris ?
Pas vraiment. Mais maintenant, ils lui ont donné finalement une carte d'identité. Il peut poursuivre des jours heureux pendant un certain temps.
Bien, eh bien, Marc, puisque vous avez pris la parole, vous allez la conserver. Mais après qu'on ait entendu quand même une musique sur laquelle vous allez nous apporter des éclaircissements.
Basta ya, basta ya. Basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes?
Ah, il faut laisser, au contraire. Moi,
la fin est bonne.
En los montes del Vietnam, el guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya.
Ah oui, c'est ça, c'est parce que c'était le moment où il disait, on a appris la guerre, le guerrier sur le terrain.
A appris la guerre dans sa terre.
Et le
Yankee l'a appris au cinéma. Et bon, au cinéma, le Yankee gagne toujours la guerre, comme vous le savez, surtout que cette chanson a été écrite bien avant les Rambo. Sur le terrain, c'est parfois un petit peu difficile.
Alors on va encore nous accuser de faire de l'antisémitisme et de l'anti-américanisme, je dis antisémitisme. C'est le même journal qui m'accuse de faire de l'antisémitisme. Alors vous savez ce qu'ils ont trouvé comme raison, comme preuve que je suis antisémite? Ça c'est quand même assez rigolo. C'est parce que j'ai invité des juifs à cette émission, donc je suis antisémite.
Ils se sont exposés eux-mêmes.
Non, c'est pas ça. Je veux dire, voilà exactement la phrase. Serge de Beketch s'est franchement dévoilé, en accueillant le 15 septembre dernier, soir de Rosh Hashanah, délicate attention, des juifs pour Jésus. Alors, moi, je ne savais même pas ce que c'était le Grand Chachana. Je veux dire que, bon, je ne suis pas absolument ferré à glace sur ce genre de sujet. Il se trouve qu'un soir, j'ai invité, effectivement, des gens qui ont créé une association qui s'appelle Juifs pour Jésus et qui sont des Juifs chrétiens. Des Juifs qui croient que le Christ est, et que notre Seigneur est le Messie. Bon, c'est qui est pas mal.
Donc, c'est l'aboutissement. Je suis assez d'accord avec eux. Un Juif qui est fidèle à
ah
ça.
Là là, mais
c'est d'arriver,
surtout
c'est
ça.
D'arriver à, ben voilà. À cette conclusion.
Et voilà. Alors ça, c'est aussi ce qui m'est reproché, puisqu'il paraît que j'ai cité mon maître, l'abbé Georges de Nantes. Alors là, qui dira que l'Église, et citant mon maître, j'ai dit que l'Église est le virus Israël, les temps messianiques devant coïncider avec la conversion des Juifs. Mais je suis obligé de répéter que oui, c'est pas mon maître Georges de Nantes qui dit ça, c'est la doctrine même de l'Église catholique, c'est le fondement de la doctrine catholique. Il n'y a aucun antisémitisme là-dedans, il faut vraiment être abruti pour croire qu'il y a de l'antisémitisme là-dedans. Au contraire, puisqu'on veut que les Juifs deviennent nos frères en Jésus-Christ, c'est qu'on les aime, c'est tout. Enfin, vraiment, il faut être tordu comme un tire-bouchon pour comprendre autre chose. Mais le fait est que ce qui m'est reproché dans ce papier, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cette émission? Écoutez bien. Clin d'œil à Charles Maurras. C'est vraiment incroyable. Rejet sous couvert de la langue française de tout ce qui est autre. On va en avoir la preuve dans deux minutes, puisque Marc va nous parler des apatistes. Jamais de musique dansante. Vous vous rendez compte que dans cette émission, il n'y a jamais de musique dansante?
Hein, tout à l'heure, on va passer, si vous le voulez bien, on va passer à la cucaracha.
Jamais de chansons en anglais. Jamais de chansons en anglais. C'est incroyable. On est vraiment des nazis.
On n'en entend nulle part.
On est des nazis. Et enfin, la haine affirmée à l'encontre des États-Unis. Tout ça caractérise l'actuel retour aux sources de la droite nationale et catholique. Ben oui, c'est quand même pas mal vu. C'est vrai que je suis de droite, nationaliste, catholique. Que je déteste la musique de nègre, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce que j'y fasse? Je veux pas en passer dans mon émission. Que je ne sais pas danser. On me l'a assez reproché de mon jeune temps. Que ça m'intéresse pas du tout, les boîtes de nuit et tout ça. Et que, j'aime beaucoup Maurras. J'ai non pas une haine affirmée à l'encontre des États-Unis, mais je trouve que les Américains, c'est comme tous les peuples du monde, ils sont très bien chez eux, vous voyez. J'aime beaucoup, comme Jeanne d'Arc aimait beaucoup les Anglais chez eux. J'aime beaucoup les Américains chez eux. Et je voudrais qu'on arrête de me dire à chaque fois que je dis ça que les Américains, si on n'avait pas eu les Américains en 44, où on serait, tout, j'en sais rien, on s'en serait probablement tiré quand même, parce que il y a quand même pas mal de Français qui ont fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Que les Américains aient fait eux aussi ça, c'est très gentil de leur part, mais c'est pas, il faudrait arrêter de croire naïvement que si les Américains sont venus en Europe en 1944, c'est uniquement pour libérer la France. C'est aussi parce que les intérêts des États-Unis le commandaient. Voilà. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire parce qu'ils jugeaient qu'ils avaient à le faire. Et dire ça, c'est pas avoir la haine des Américains. Je n'ai aucune haine des Américains. Il se trouve que je préfère la culture française à la culture américaine. C'est comme ça.
Alors, d'où le succès d'Euro Disney.
D'où le succès d'Euro Disney. Je ne dois pas être le seul, d'ailleurs, en fait. Hein. Alors, donc, mon cher Marc, pour en revenir à votre affaire, c'est vrai que ce chanteur, qui chantait en français, visiblement,
instant,
il paraît qu'on passe jamais de chansons en français.
Il chantait en français, vous savez, il s'agit d'Atahualpa Yupanqui, qui est un chanteur argentin, qui n'était pas d'extrême droite, d'ailleurs.
Pas vrai.
Mais la chanson est intéressante, d'abord parce qu'elle a été, elle est extrêmement connue dans toute l'Amérique latine. Il fait mention, lui, argentin, vous avez entendu un moment aux Mexicains, au Panama, à Panama, le Panama qui reste toujours dans les mêmes problèmes. Et il y a surtout ce final qui, je crois, éclaire beaucoup de choses, qui est, je me répète, les Américains ou les Yankees ont appris la guerre au cinéma, tandis que leurs vainqueurs, généralement, l'apprennent sur le terrain, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et le problème du. On vient maintenant à Zapata. Que l'on connaît très mal. J'ai revu l'autre. Je me suis passé l'autre jour le film, le fameux film avec Marlon Brando et Anthony Quinn, qui m'a considérablement déçu. Quand on connaît l'histoire de la réalité de Zapata, c'est un peu décevant. Mais la fin du film est tout à fait extraordinaire, car la fin du film, c'est exactement l'appel de ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire que Zapata n'est pas mort, Zapata est toujours vivant et il va réapparaître un jour. Ça rappelle Barberousse dans sa caverne. Et depuis la mort en 1919 de Zapata et en 1923 de Pancho Villa, mais entre l'un et l'autre, il y a d'énormes différences, parce que l'un était, enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais Zapata était, d'abord, il y a une chose qu'il faut que l'on sache, pourquoi le personnage m'intéresse, il n'y a rien. C'est un choix en Zapata, beaucoup plus qu'il n'y a rien de marxiste dans le personnage. Il était profondément religieux. Le drapeau, la bannière qu'il a choisie pendant le soulèvement des paysans de l'État de Morelos, qui est un tout petit État au sud de Mexico, c'est par là que passe la route depuis Mexico jusqu'à Acapulco. C'est au pied du Popocatépetl. C'était extraordinaire volcan. C'est une terre de pays rudes, de paysans très montagneuses. On est à 150 km de Mexico, mais on croit être à 3000 km. Il n'y a aucune industrie, que des petites villes, et c'est une population entièrement indienne. Et quand, à partir de 1910, 1911, la révolution mexicaine commence, dans le nord, il y a Pancho Villa, qui s'appelle pas Pancho Villa, mais on l'ignore souvent, mais le nom de Pancho Villa, c'est Doroteo Arango.
Oui, effectivement, c'est moins fort. Pour un révolutionnaire de s'appeler Doroteo Arango, c'est quand même pas facile.
Pour une raison simple, mais la vie de Pancho Villa est aussi intéressante. Il a, à 17 ans, il a le patron de l'hacienda, le propriétaire de l'hacienda dans lequel son père travaillait, il a violé sa petite fille, la petite sœur de Doroteo Arango, et il l'a blessé très grièvement, il l'a laissé pour mort, il s'est enfui dans la montagne, et il n'est plus jamais redescendu de la montagne. Et là, il a pris un autre nom.
C'est bien. Tuer les gens qui font du mal aux enfants.
C'est un personnage tout à fait. Il a pris le nom, pas le maquis, parce qu'il n'y a pas de maquis dans l'état de Chihuahua où il était. Il a changé de nom.
Qui ne manque pas de chien.
Exactement. Petit chien. C'était un enfant naturel. Il a pris le nom, pour se venger de son père, qu'il n'avait jamais reconnu, il a pris le nom de son père, qui s'appelait Villa, qui est un propriétaire terrien. Il est donc venu Francisco Villa, Pancho Villa. Mais ça a été de tout temps un guerrier, Pancho Villa. Un guerrier du désert des grands. Vous avez vu dans tous les films américains où on passe au Mexique, ça ressemble à ça. Tandis que...
Ça fait un peu penser à la banlieue parisienne, les immeubles en moins. Quoi.
Voilà, exact. Tandis que dans l'état de Morelos, indien, paysan, communautaire, Pancho Villa était un solitaire, Zapata était un communautaire, enfin, Emiliano Zapata, c'est son vrai nom. En plus, en espagnol, a des consonances. Zapata, c'est le
danseur, un peu, non?
C'est le talon. C'est à la fois
le
talon d'une ancre. C'est la pierre de soutènement d'un et c'est la pierre de soutènement d'une architecture. Et puis, bon, il y a le rappel de Zapato, il y a une idée de force en espagnol dans le nom. Il était charro, c'est-à-dire c'est la différence des charros comparés aux cowboys. Cowboys sont des garçons vachés et les charros sont des cavaliers. C'est-à-dire les uns sont les hommes de vache, les texans, et les mexicains sont des...
Vous nous dites cavalier, mais vous nous disiez que c'est un personnage très religieux, puis vous avez commencé à nous décrire la bannière.
Alors la bannière, bon, je reviens. Lorsqu'ils se sont... le soulèvement a commencé vers 1910, il a pris comme bannière la bannière du curé Hidalgo, qui a été la première tentative de libération de l'Espagne, du Mexique de l'Espagne en 1810, c'est le soulèvement du curé Hidalgo, où il a pris comme bannière la bannière dorée de la Vierge de Guadalupe. Et la bannière des troupes zapatistes, je l'ai là, c'est Viva Maria Santissima de Guadalupe.
Pour nos auditeurs, nos deux auditeurs qui ne savent pas, la Vierge de
Guadalupe,
c'est la Vierge miraculeuse qui existe
dans tous les pays.
Ah oui, mais à Guadeloupe, elle a un sens particulier.
Elle a un sens particulier. C'est la Vierge nationale du...
Et en plus, c'est une histoire incroyable, puisque on dit que la Vierge, le visage de la Vierge s'est imprimé miraculeusement sur un linge, sur un tablier, je crois, enfin, un tablier. Alors on avait raconté ça et tout le monde disait « Oh, c'est des bêtises, c'est complètement des inventions de Curton ». Et il se trouve que il y a quelques années,
on a examiné techniquement, avec les moyens les plus élaborés de la science moderne, on a examiné cette image de la Vierge imprimée miraculeusement sur le vêtement que portait son interlocuteur. Hein? Et on s'est aperçu d'une chose stupéfiante, c'est que dans l'œil de la Vierge, on voyait la silhouette de son interlocuteur. Ce qui est absolument inexplicable s'il s'agit d'un artefact, comme on dit, ou d'un objet fabriqué de la main de l'homme. Cette Vierge a une importance immense.
C'est la Vierge nationale pour tout le pèlerinage national. La Vierge qui est le symbole, je veux dire, ça tient lieu d'un souverain, c'est le symbole de la nation. Et chacun, vous savez, des grands soldats de sa patte portait dans son grand chapeau, ce qui est une tradition dans le Morel, c'est une tradition des cavaliers, portait une image de son saint préféré. Et là, ce qu'a décidé, contrairement à Pancho Villa qui n'avait pas de doctrine, très rapidement Zapata a établi, qui n'était pas du tout, comme on le montre dans le film américain, un analphabète. Zapata lisait parfaitement, il n'était pas docteur en droit, mais il a lu Kropotkin. Ce qui pour un analphabète
un alphabète, c'est difficile.
Et il a mis au point en 1911 le plan d'Ayala, qui était tout simplement là. Les terres revenaient aux paysans, mais on revenait aux paysans par commune. Et c'était la commune qui administrait. Ce n'est pas rien à un colco, c'était les paysans possédaient la terre de leur village.
C'était plutôt un kibbutz qu'un colco.
C'était plus un kibbutz qu'un colco.
C'est du communautarisme, c'est pas du communisme.
C'est du communautarisme avec un zeste d'anarchisme chrétien en même temps, parce qu'ils refusaient le pouvoir central, et en même temps, on se retrouvait un peu parce que les Morello, c'est un peu une petite Suisse. Ces soldats étaient une milice villageoise organisée par village, et lorsqu'il levait son armée comme la milice helvétique en quelques heures. Ils partaient tous avec leur sein dans le chapeau, leur cartouchière.
Ça, c'était les chouans,
c'est exactement. Et d'ailleurs, quand on regarde les armes qu'avaient les zapatistes actuels dans l'état de Chiapas, on s'aperçoit que pour certains, les armes ultramodernes, quelques-uns ont des kalachnikovs un peu dépassé, mais la plupart étaient armés de bâtons au bout duquel ils avaient mis leur machette. On arrive au faux de nos choix.
Donc au fond, la révolution zapatiste du début du siècle, c'est un soulèvement populaire, c'est une chouannerie catholique et communautariste, paysanne, qui se soulève, ce soulèvement se produit contre les grands latifondières,
contre les latifondières et surtout contre une série de dictatures. Bon, alors ce qui est également intéressant, c'est que l'État de Morelos porte le nom de Morelos. Il y a eu d'abord le curé Hidalgo en 1810, et puis ensuite est venu aider le curé Hidalgo un autre curé, le curé Morelos. Ils ont l'un et l'autre été fusillés par les Espagnols, et celui qui a fait fusiller le curé Morelos, qui a donné son nom à l'État, et Iturbide, qui ensuite s'est fait couronner empereur sous le nom d'Augustin Ier, qui a ensuite lui-même été fusillé. Ensuite est arrivé Diaz. Après, bon, est arrivé, bien entendu, Juarez et puis Maximilien. Et puis, en fin de compte, est arrivé la fameuse dictature de Diaz, qui a duré 35 ans, et à laquelle a été mis fin le soulèvement populaire de 1910.
Alors aujourd'hui, 80 ans plus tard, presque 85 ans plus tard, qu'est-ce qui, selon vous, explique ce nouveau soulèvement zapatiste, et dans quelle mesure s'agit-il vraiment d'un soulèvement néo-zapatiste?
Oh, tout à fait, parce que de toute manière, alors que Pancho Villa est resté un personnage, en plus il y a une différence fondamentale entre l'un et l'autre, tout le monde connaît la photo, enfin presque tout le monde connaît la photo de Pancho Villa et Zapata entrant dans la salle du trône des présidents du Mexique. Pancho Villa en uniforme de général, Zapata en uniforme de charro, de cavalier. Pancho Villa s'assoit sur le fauteuil du président, un fauteuil doré, une horrible chose. Et la victoire, il est assis, il est allongé quasiment sur le fauteuil, et à côté, sur un fauteuil beaucoup plus petit, sa patte à le regarde avec des yeux étonnés. Et lui, sa première réaction devant le fauteuil de président a été qu'il fallait brûler le fauteuil. Pancho Villa, lui, s'est assis dessus. Et puis ensuite, dès la prise de Mexico, Pancho Villa est reparti dans ses montagnes et Zapata est reparti vers ses kibbutz où il est resté jusqu'à, où il a, entre le milieu de 1914 et la fin de 1915, pendant un an et demi, sa république autonome de Morelos, collectiviste, communautaire, a survécu, et puis ensuite les opposants, celui qui était en train de prendre le pouvoir, qui était Carranza, a essayé de s'en débarrasser, puis finalement ils l'ont piégé. Mais la mémoire, je dirais, comme il y a eu un titre dans l'ABC de Madrid, qui est un journal monarchiste hyper catholique, qui est très pro-sapatiste, le titre qu'ils ont fait il y a quelques jours, c'est pas Vive Zapata, c'est vive Zapata, ce qui veut dire Zapata vit. Et c'est tout à fait exact. En plus, ce qui est très, très intéressant, c'est que ce dont j'ai parlé dans ma lettre d'il y a 15 jours, l'état de Chiapas, qui est l'état le plus indien d'un Mexique qui lui-même est indien, mais c'est l'état le plus pauvre, le plus, on l'a lu un peu partout, mais aussi le plus, il est tout au fond du cul-de-sac du Mexique, vous voyez, il est tout contre le Guatemala, dans une forêt, entre autres il y a la tribu des Lacandons, ce ne sont pas des Mayas, contrairement à ce que l'on a dit, entre autres les Lacandons qui sont, on revient à preuve que ce sont des gens de droite, ils ont été étudiés par Soustel. Ils ont un peu ce bec de canard de Gardimaouk, ils sont prêts, ils sont très proches du Guatemala, qui est également de l'autre côté, du côté guatémaltèque, il y a une guérilla qui dure depuis des siècles contre le gouvernement militaire du Guatemala, et c'est le seul endroit du Mexique où il y a une bourgade qui porte le nom d'Emiliano Zapata, se trouve à la frontière entre l'état de Chiapas et l'état de Tabasco sur le fleuve Usumacinta. Et on retrouvait en 1994 exactement la situation où se trouvait l'état de Morelos en 1912, 13 ou 14. Et les conditions étant réunies, plus un évêque qui n'est pas un évêque de la libération, etc., mais qui est un évêque très proche de ces Indiens, ils se sont préparés assez longuement, ils ont eu quelques armes pour certains, quelques dirigeants, et puis s'appuyant sur le souvenir de Zapata, et sachant qu'on approche d'une élection au Mexique, que Salinas de Gortari, qui est sans doute le meilleur président que le Mexique ait eu depuis 1915, un économiste distingué, milliardaire bien entendu, mais beaucoup plus, c'est atypique par rapport aux autres personnages du parti révolutionnaire institutionnel, qui est le parti au pouvoir au Mexique. Il a très vite compris, ils ont très vite compris qu'il fallait profiter de ces élections approchantes pour essayer de déstabiliser le pouvoir, et que Gortari pourrait, peut-être ils arrivaient à tenir pendant quelques semaines après l'intervention de l'armée, arriver à des pourparlers, et c'est ce qui est en train de se faire. Mais plus Gortari abandonne un peu de l'Est et propose, il a proposé l'amnistie, mais l'amnistie, ils n'ont rien à foutre, puisqu'il leur demande en même temps de rendre leurs armes, ils n'en ont pas beaucoup, et il n'est pas question de rendre les armes. Ce qu'ils veulent, c'est au moins, en commençant par l'état de Chiapas, qui a lui-même encore toute une tradition, puisque Bartolomé de las Casas, le dominicain qui défendait les Indiens dès le XVIe siècle, était l'évêque du Chiapas.
C'est un état marqué.
C'est un état marqué depuis les origines, et ces ethnies indiennes sont des gens durs, qui vivent dans la montagne. L'armée qu'on leur a envoyée sont des gens du Nord, qui sont complètement... Et en plus, ils ont fait l'erreur fondamentale de faire quelques... quelques bavures, comme on dit. Or, il suffit, vous connaissez les écrits de Mao Tse-tung, une insurrection, quand on se crée des martyrs, ne sert qu'à alimenter le feu de cette insurrection même.
Je vois que vous avez, Marc, apporté un livre sous le bras. Est-ce qu'on peut en recommander la lecture?
Il y a mieux, mais il y en a pas d'autres.
Oui,
on le trouve tout bêtement à la FNAC. C'est un livre de Manuel Plana qui s'appelle Pancho Villa et la Révolution mexicaine. Et on parle beaucoup de Pancho Villa, un petit peu de Zapata. Ça vaut pas très cher, ça vaut 54 francs 50. C'est pas mal du tout. Il y a quelques beaux documents iconographiques. Et puis il y a cette fameuse photo du chef révolutionnaire Fortino Samano qui fume son cigare avant d'être fusillé, je dois dire.
Ah oui, je connais cette
mourir
photo.
Comme ça, ça vaut d'avoir
grand
vécu.
Personnage, ça. Grand personnage. Il faut voir cette photo. L'arrogance désinvolture.
Désinvolture. Vous avez vu qu'il a un pied sur une pierre, ouais. L'autre sur...
Très bien. Et il est contre le poteau, contre le mur d'exécution. C'est probablement dans la minute qui précède le feu mortel.
Mais il est devenu immortel.
C'est quand même pas n'importe qui.
C'est pas n'importe qui.
Merci Marc. Puisque vous nous avez parlé des Lacandons, on va peut-être terminer en écoutant un exemple de la musique.
Vous verrez qu'elle est très proche de la musique provençale.
Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est de la musique Lacandon qu'on va entendre.
Non.
Non, ça c'est pas.
Je fais des signes pour qu'ils ne se trompent pas de musique.
Ça c'est pas de la musique Lacandon, c'est plutôt c'était un début de la
cucaracha.
Mais voilà la musique Lacandon.
Je crois qu'on a interverti la plage, et ça c'était une plage de musique oppressante pour faire parler les colonels
fait prisonniers. Quand vous nous dites que ça ressemble à de la musique provençale,
cette partie-là, pas vraiment.
C'est la musique provençale, mais fatiguée par l'altitude.
Non. Là, c'est la musique sérielle, ce qui prouve que nos amis de la musique moderne n'ont rien inventé, parce que c'est aussi emmerdant.
C'est Lacandon quand même.
C'est quand même Lacandon, mais dans des moments de faiblesse.
On dirait un sketch de DeVos Lacandon. Tu sais, quand il dit « je voudrais aller à 7 », c'est le quart pour 3, non, le quart pour 7, quand il part à 3, enfin, je sais pas quoi.
À quand
Lacandon. Bon, est-ce qu'on est... Non, on va pas écouter la musique Lacandon. Si, quand même. Si, alors maintenant,
c'est
on
quand
va
même plus gay. Hein,
les fifres et tambours.
Fifres et tambourins, Lacandon. C'est quand même plus dansant.
C'est le même orchestre, mais à la descente. C'est à la descente du Bobo Catépec. Merci encore, Marc. Merci pour tout. Merci de nous avoir parlé de Atahualpa Yupanqui et surtout de Zapata et de Pancho Villa. Mais merci de nous avoir montré que quand même, la musique française, même si ça plaît pas à certains, c'est quand même mieux dans l'ensemble que
enfin, ça montre votre éclectisme, parce que mais je peux quand même la seule radio qui passait de la musique Lacandon.
Je peux pas vous remettre qu'on fera une émission de musique Lacandon hebdomadaire. C'est pas de mon ressort, mais je crois pas. Un auditeur nous dit que l'Académie française, dans son complément de 1876, dans son dictionnaire, dans le complément de 1876, à la page 1277, colonne 2, vous ne pourrez pas dire qu'on donne des informations sans référence, donne pour Zapata la définition suivante. Mot espagnol qui signifie soulier, il se dit de l'usage de mettre quelques présents dans les souliers ou les pantoufles des enfants et des domestiques le jour de la Saint-Nicolas. C'est amusant, non ?
Zapata, c'est soulier. Voilà. Zapata, c'est à aucun moment, il y a la même racine que soulier.
Mais zapateados, ce que font zapatero, c'est un peu la même chose. Alors, un auditeur nous dit, c'est cropotine et non pas crapotine. Je vous rappelle.
C'est crapoteux.
Oui. Mon cher Martin Pelletier, je crois que vous avez une opinion, et ça ne m'étonne pas, sur l'affaire algérienne.
Oh, pas tellement une opinion, simplement une inquiétude. Parce que je suis pas comme vous, je suis inquiet. C'est la
dernière déclaration. Qu'est-ce qui peut nous arriver pire que de monter au ciel ? Voulez-vous me le dire ?
Mieux.
Mais non, mais justement, c'est pas trop gênant.
Oui, mais ici et maintenant, comme disait notre brave président de la République.
On ne connaît ni le jour ni l'heure.
Exactement. Ici et maintenant, on n'est pas tous les deux tout seuls, on n'est pas tous les trois tout seuls, il y a tout le monde. Non, il y a quand même une chose qui est inquiétante, c'est la dernière déclaration de l'armée, des chefs de l'armée algérienne, qui ne laisseront pas faire tous les dérapages contre la démocratie. Bon, il semble bien, encore une fois, qu'on ait choisi de soutenir à fond le FLN dans cette affaire-là. Et que de deux choses l'une, ou bien ils réussissent, c'est-à-dire ou bien ils vont massacrer pas mal de fils, et on va avoir du monde à la maison ici en France, ou bien ils se font déquiller, on aura aussi beaucoup de monde. Alors on est en train de faire des enquêtes sur les moyens de police et des moyens préparés par Pasqua à cette
éventualité,
pour faire face, les moyens des arrêtés préfectoraux qui sont préparés, éventuellement, rien n'est fait. Et l'état de la législation est
comme
tel
toujours,
que...
Comme toujours, d'ailleurs, comme ils font jamais rien avant.
L'état de la législation est tel qu'on ne pourra rien non plus, on ne pourra rien arrêter. Moi, c'est toujours ça extraordinaire. On peut avoir vraiment demain 200 000, 300 000 types chez nous, comme ça, sans rien faire. Et franchement, on a l'impression qu'on nous y prépare avec ce genre de petites déclarations qui sont maintenant quasi hebdomadaires. Voilà, alors je voulais signaler quand même que justement, Roger Lindre et Jean-Marie Le Pen, demain soir, font une réunion, en l'habitualité, sur ce thème.
On y sera.
Ni FIS, ni FLN. Si vous avez encore deux secondes, j'avais deux, trois petits sujets d'actualité à traiter avec vous.
Oui, oui, je vous en prie, bien sûr, vous êtes là pour ça.
Alors, il y a une très, très jolie petite information qui nous vient via l'humanité de Chine. Dans la province du Sichuan, où maintenant je crois qu'on dit le Sichuan, mais enfin je ne sais pas très bien.
Moi j'en parle jamais.
On dit plus Pékin, on dit Beijing, on n'est pas.
Mais c'est pour une raison simple, ce qu'il faudrait. Pour une fois, on a appris, c'est très intéressant. On a modifié, il y a 7 ou 8 ans, le gouvernement de Pékin a modifié la transcription latine des mots chinois.
C'est cela.
Tous les mots, les noms, etc. Il se trouvait, pour changer la précédente, pour adopter une nouvelle. Et tous les journaux français ont adopté, donc, au lieu de Pékin, c'est devenu Beijing. Pour une raison simple, qu'est-ce qu'ont choisi les Chinois ? La transcription précédente, qui avait été adoptée vers 1920, était basée sur l'accent français. Le français étant la langue principale à cette époque-là. Donc, on a pris les mots chinois tel qu'un Français pouvait les prononcer, et c'est devenu la transcription internationale. En 1980 et quelques, les Chinois, considérant que le français est une langue morte, ils ont donc transposé la transcription ancienne sur le français par une transcription nouvelle, le pinyin, sur l'anglais. Si bien que la traduction se lit pour lire, Beijing, comme on doit le prononcer, il faut le Beijing. Alors là, si vous le prononcez avec l'accent anglais, c'est parfait. Mais si vous le prononcez avec l'accent français, c'est plus inintelligible par un chinois. Alors, je ne vois pas pourquoi les journaux
français
utilisent, les journaux ou les français en général, utilisent là une transcription anglaise.
Vous ne voyez pas pourquoi, vous êtes sûr?
Non.
Ben moi, je vois très bien pourquoi.
Mais il faut un mode d'emploi. C'est-à-dire, maintenant, utilisez la nouvelle transcription, d'accord, mais prenez l'accent anglais.
Ok.
Bon,
alors, alors, donc, je reprends le Sichuan.
What about
Sichuan? Sichuan.
En provenance de Sichuan, une très jolie petite information. Là-bas, des restaurants servent à déjeuner du placenta humain. Alors, quand on parle de bioéthique et de choses comme ça, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, les recherches sur l'embryon, etc., je crois qu'on est arrivé simplement à un point de folie furieuse.
Parce que le Chinois, c'est n'importe quoi.
Oui, les Chinois sont très curieux. Hein.
Mais ils le servent comment, Julien?
On va peut-être pas donner de détails gastronomiques de cet ordre. Ça fait tout à fait penser à une histoire. Je ne sais plus quel ministre africain était interviewé sur une radio française, métropolitaine, et alors on débattait du problème de l'anthropophagie. Alors, il y avait un journaliste qui était là, un chercheur français, je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique français, qui naturellement essayait de justifier l'anthropophagie, bien sûr, et il expliquait que c'était, c'est pas un problème, une question de substrat culturel. Et le ministre africain l'arrête, il lui dit non, pas du tout, manque de protéines. Donc, on peut pas en vouloir aux Chinois, ils mangent ce qu'ils veulent. De toute façon, je suis sûr que j'irai pas souvent dans les restaurants du Sichuan. Par conséquent, je suis pas trop inquiet.
En matière de bioéthique, je voulais signaler justement que National Hebdo fait paraître demain une grande interview de Martine Louis II qui replace bien toutes ces questions dans leur contexte, c'est-à-dire uniquement le fond du problème, c'est la famille, l'éducation, et le reste, les lois, le comité d'éthique, ce sont de sérieuses plaisanteries dans l'état actuel de notre civilisation.
Et puis il y a une interview de Le Pen aussi,
oui,
un entretien avec Le Pen
il est parti, il regarde ce qui se passe et il lui semble que la France est sur une politique générale de faiblesse. On en a parlé tout à l'heure de la loi Fallou, il est évident que le gouvernement a fait montre de son extrême faiblesse en faisant marche arrière, comme dans l'affaire d'Air France avant, mais c'est encore plus grave quand ça s'applique à la politique étrangère. Alors Le Pen a décliné, regardez ce qui se passe justement pour parler de la Chine, on lâche Taïwan pour d'hypothétiques, pour d'hypothétiques, malheureusement marché avec Pékin, ce faisant on perd la face, donc on perdra certainement des marchés, parce que c'est-à-dire ce qu'on a commencé à faire en Arabie Saoudite, comment s'appelle-t-il, Édouard Balladur est allé là-bas, comme le font beaucoup de politiciens français, en VRP pour essayer de vendre du matériel. Il y avait notamment des lignes de téléphone, il y avait des Airbus. Résultat, il n'a rien vendu, il a encore une fois perdu la face. Bon, prenons d'autres exemples. On vient de laisser dévaluer le franc CFA. C'est un peu technique, mais je traduis en français. C'est-à-dire que ça revient à terme à abandonner l'Afrique francophone. Donc partout où la France a quelque chose à jouer, elle ne le joue pas. En revanche, on est en train de faire les zigotos en Bosnie, où nous n'avons ou bien rien à faire, ou bien il aurait fallu le faire plus tôt et plus fort. Et on risque de perdre du matériel et du monde pour une question que nous ne pourrons pas trancher, alors que là où nous pourrions peser et défendre les intérêts de la France, notamment au Liban encore, je pense au Liban, nous ne faisons rien. C'est la reculade sur tous les fronts. Et Jean-Marie Le Pen a une expression pour qualifier cette politique du chien comme au fil de l'eau, c'est le titre d'un film de Jean Rochefort, c'est Courage Fuyon. Courage Fuyon.
Moi j'appelle ça la politique du pantalon sur les chevilles, mais chacun...
La version originelle de la Marseillaise, qui n'est pas marchons, mais marché.
Oui, armons-nous et marchons. Merci Martin Pelletier, merci Marc. Alors Marc, encore un mot à propos, alors là on donne la parole à Mathieu Huguenet pour sa lettre bleue.
Voilà, alors deux choses, d'une part je vous rappelle, si vous voulez faire fructifier merveilleusement votre patrimoine, vous pouvez toujours me demander un numéro, vous avez été beaucoup à le faire, mais j'en ai encore sous la main, donc de la lettre bleue de Mathieu Huguenet, 16-18 Place de la Chapelle, 75-018 75-018 à Paris. Et puis, beaucoup d'entre vous m'ont demandé l'adresse du gestionnaire de la SICAV sur les marchés émergents dont j'ai parlé la semaine passée. Il s'agit de State Street Bank, State, S-T-A-T-E, Street comme une rue en anglais, et Bank en français, qui se trouve à sa nouvelle adresse 21 rue Balzac, à Paris, dans le 8e, donc 75-08, le téléphone 1 depuis la province 53-75-80-80. D'autre part, il y a un service d'information téléphoné au 1, je suppose, 36-68-33-66. Là, je crois que cette fois-ci, vous avez toutes les coordonnées possibles pour marcher vers la fortune qui ne conduit pas au bonheur, mais qui, de temps en temps, contribue.
Merci, Marc. Alors, comme je l'ai fait la semaine dernière, comme je le ferai, si Dieu veut, les semaines suivantes, je vous fais le point de l'actualité du 18 janvier 1914. Donc, dans l'Action française, on va encore me reprocher de célébrer les mannes de Maurras, mais qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je l'aime, le vieux maître, alors j'y peux rien, c'est comme ça. Ça ne plaît pas toujours, mais c'est pareil. C'est très curieux parce qu'on a l'impression que c'était vraiment pas la peine de faire 80 berges ou 80 ans dans quiquinement comme on a fait, puisque quand vous regardez les informations, vous voyez qu'il y a, de même qu'aujourd'hui, des incidents turco-kurdes en France, qu'il y a des inondations, qu'il y a la révolution au Mexique.
Des soldes, j'y reviens, des soldes.
Il y a des soldes, oui, ça c'est toutes les semaines. Qu'il y a des tremblements de terre, alors un désastre au Japon, nouvelle secousse sismique, là c'est pas à Los Angeles, c'est à Nagasaki et à Tokyo. Qu'on a arrêté un escroc, enfin ça c'était tellement... À l'époque on mettait ça dans le journal, maintenant on peut plus, il faudrait doubler la pagination. Je parle pas des députés, hein. Il est pas député, il est caissier. Ah. Il s'appelait Laporte.
Il refusait de prendre Laporte, mais il a pris la caisse avant de prendre Laporte.
Mais ce qui est très drôle, c'est que c'était le caissier du New York Herald qui avait fui en emportant 140 000 francs appartenant au journal. Et il a été arrêté par Monsieur Gilbert, juge d'instruction, à la descente du bateau au débarcadère de Southampton. Je veux dire que le gars qui prend le bateau pour s'enfuir après avoir piqué le fric, il est pas très malin, parce qu'il est à peu près sûr de se faire prendre. Et puis alors, il y a quand même une information, c'est que à Constantinople, Monsieur Enver Pacha a reçu le général von Sanders. Donc il est dans tous les coups, il y était déjà à l'époque.
Et où, si c'était à Enver qu'il a reçu Constantinople Pacha.
Je crois que c'est tout. On parle de la Triplice, on parle des incidents de Saverne en Alsace-Lorraine.
Ces fameux incidents avec le capitaine, je ne sais plus comment.
Je peux vous donner peut-être quelques détails.
Fameux incident avec les dessins de Hansi.
La seconde chambre prit le Reichstag auquel elle exprime les remerciements de la population alsacienne pour son attitude énergique de continuer la lutte pour la défense de la loi et du droit en réclamant premièrement une délimitation des pouvoirs conformes aux idées modernes, deuxièmement une réforme de la justice militaire, troisièmement le développement de la constitution d'Alsace-Lorraine dans le sens d'une autonomie sur les bases d'un État confédéré. Ça, c'était 6 mois avant qu'on se foute sur la figure.
Mais c'est vers lequel on marchait, s'il n'y avait pas eu la guerre de 14.
Donc, si on avait fait l'Europe en 14, eh bien, on serait aujourd'hui...
Il y a quand même une chose...
Exactement dans la situation.
Une chose très remarquable dans le journal que vous aviez la semaine dernière, qui était l'Excelsior, et dans l'Action française de cette semaine, c'est qu'on semble avoir beaucoup plus lu cette Action française qu'on ne lu l'Excelsior. Il est, votre exemplaire d'Action française est beaucoup plus usé par les lecteurs.
Il y a moins de photos aussi, venir. Et je vous signale qu'au bon marché, maison Boussicot, confiance vendant le meilleur marché du monde entier, le lundi 19 janvier et les jours suivants, blanc. Voilà. C'est bien la preuve que c'était un journal raciste. Le linge et les trousseaux du bon marché, d'une exécution parfaite, justifient la renommée universelle de la maison. Voilà, toujours rien sur la guerre, mais pour une raison très simple, c'est qu'elle n'a pas commencé. Patientez, ça va venir dans les semaines qui suivront. Merci encore Marc, merci Martin, et nous allons écouter un petit peu de musique pour faire la valse des... Comment on appelait ça ? C'est le jeu des chaises, oui, pour nos invités. Donc nous allons accueillir nos invités de la deuxième partie de l'émission au son d'une musique. Oui.
Kumara.